Une nourrice pour le roi.
Jean Ier, roi de France, fils posthume de Louis X Hutin, naquit dans la nuit du 13 au 14 novembre 1316 au château de Vincennes. La nouvelle fut aussitôt proclamée et les seigneurs endossèrent leurs vêtements de soie. Dans les tavernes, les truands et les ivrognes pour qui tout événement était occasion de boire commencèrent dès midi à se saouler et à braire. Et les négociants en objets fins, orfèvres, marchands de soieries, fabricants de draps précieux et de passementeries, vendeurs d'épices et de poissons rares et de produits d'outre-mer, se frottèrent les mains en rêvant aux fournitures des réjouissances. Les rues souriaient, les gens s'abordaient comme ragaillardis en s'écriant « Alors, mon compère, nous avons un roi !» La joie pénétrait jusque dans les couvents où abbés et aumôniers annonçaient et commentaient l'événement. À l'hôtellerie du couvent des Clarisses, Marie de Cresset, 4 jours plus tôt, avait mis au monde un petit garçon qui pesait fortement ses 8 livres, promettait d'être blond ainsi que sa mère, et têtait les yeux fermés avec la voracité d'un jeune chiot. À tout instant, les novices, encapuchonnés de blanc, entraient dans la cellule de Marie pour la voir langer son enfant, pour contempler son visage radieux pendant qu'elle allaitait, pour regarder cette poitrine rose, abondante, épanouie, pour admirer, elle destinée à une virginité définitive, le miracle de la maternité autrement qu'en figure de vitrail. Car s'il arrivait parfois qu'une nonne fautât, cela ne se produisait pas aussi souvent que l'assuraient les rimeurs publics en leurs chansons, et un nouveau-né dans un couvent des Clarisses n'était quand même pas chose fréquente. « Le roi s'appelle Jean, comme mon enfant, disait Marie. Ce fut toujours l'usage dans ma famille d'appeler ainsi le premier-né. » Elle voyait dans cette coïncidence un heureux présage. Une nouvelle génération de garçons allait porter le prénom du roi, d'autant plus frappant qu'il était nouveau pour la monarchie. À tous les petits Philippe, à tous les petits Louis, succéderait une infinité de petits Jean à travers le royaume. « Le mien est le premier, » pensait Marie. Le hâtif crépuscule d'automne commençait à tomber quand une jeune nonne pénétra dans la cellule. « Dame Marie, » dit-elle, « la mère abbesse vous demande au parloir, quelqu'un vous y attend. »« Qui m'attend ? Je ne sais pas, je n'ai point vu, mais je crois que vous allez partir. » Le sang monta aux joues de Marie. « C'est Guccio, c'est Guccio, c'est le père, » expliqua-t-elle au novice. « C'est mon époux qui vient nous chercher, sûrement. » Elle ferma la coulisse de son corsage, remonta vivement ses cheveux en se regardant dans la fenêtre dont la vitre lui servait de sombre miroir, mit sa chape sur ses épaules, hésita un instant devant le berceau posé sur le sol. Devait-elle descendre l'enfant pour offrir aussitôt à Guccio la merveilleuse surprise ? « Vous voyez comme il dort, cet angelot, » dirent les petites novices. « N'allez point l'éveiller ni lui faire prendre froid. Courez, nous allons bien le veiller. »« Ne le sortez pas de son bercel, ne le touchez pas, » dit Marie. En descendant l'escalier, elle était déjà torturée d'inquiétude maternelle, pourvu qu'elle n'aille point jouer avec lui et le laisser choir. Mais ses pieds volaient vers le parloir, et elle s'étonnait de se sentir si légère. Dans la salle blanche, décorée seulement d'un grand crucifix et éclairée par 2 cierges qui doublaient chaque objet, chaque forme du nombre immense, la mère abbesse, les mains croisées sur ses hanches, parlait avec Madame de Bouville. En apercevant la femme du curateur, Marie éprouva plus qu'une déception. Elle eut une certitude immédiate, inexplicable, absolue, que cette personne sèche au visage grillagé de rides verticales lui apportait le malheur. Une autre que Marie se fût contentée de penser qu'elle n'aimait pas Madame de Bouville, mais chez Marie de Cresset, tous les sentiments prenaient une tournure passionnée, et elle donnait à ses sympathies ou à ses aversions la valeur de signe du destin. « Je suis sûre qu'elle vient me faire du mal, » se dit-elle. D'un regard aigu, sans bienveillance, Madame de Bouville l'examinait des pieds à la tête.